Nicolas Henkes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous co-signez avec Benoît Magérus « Maladie mentale et société 19e-21e siècle », un ouvrage qui est une synthèse de la façon dont on a à la fois considéré et traité les maladies mentales au fil du temps et ce qui en dit souvent long sur l'évolution de nos sociétés.
Tout à fait. C'est un ouvrage qui est un ouvrage de synthèse. Alors on a voulu raconter non pas une histoire du traitement des maladies mentales, mais des histoires avec des points de vue par chapitre un petit peu différents pour aborder les différentes dimensions du rapport de nos sociétés à ces pathologies et sur ces deux siècles. Ça dit beaucoup alors à la fois des savoirs médicaux, des savoirs psychiatriques, mais ça dit beaucoup de nos rapports en tant que société à des phénomènes qui se situent aux marges, dans les marges de la société, du social et peut-être même de la raison.
Et c'est un domaine dans lequel il est difficile d'avoir des certitudes.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est la chose qui est très marquante, c'est la transformation profonde. Alors, à la fois des politiques, donc des façons d'aborder politiquement ces problèmes. Alors, au XIXe siècle, on voulait enfermer les personnes pour les soigner, avec l'idée que l'isolement allait les soigner. Aujourd'hui, on dit qu'il faut les réinsérer, qu'il faut au contraire qu'elles vivent dans la cité. Et puis, sur les savoirs, effectivement, on a des systèmes d'idées qui se succèdent au fil du temps. À certains moments, les idées que la maladie mentale, c'est un phénomène biologique, sont sur le devant de la scène. À d'autres moments, l'idée que ce sont plutôt des phénomènes de nature psychique, psychologique, voire sociale, causés par la société, prennent le dessus.
On parle de l'enfermement, mais on voit qu'au fil du temps, il y a une évolution. À partir de 1950, on ne rentre pas forcément à l'asile pour y finir ses jours.
Oui, voilà. Ça, c'est la grande rupture du milieu du XXe siècle. Jusqu'au milieu du XXe siècle, l'hôpital psychiatrique ou l'asile, dans la période d'avant, était vraiment un lieu de vie. C'était un endroit où, quand on entrait, on y passait de très longues années. Et cette idée que, au fond, l'hôpital psychiatrique, c'est le seul endroit où on peut traiter ces personnes est profondément remise en cause au XXe siècle. Alors, assez tôt, mais c'est après les années 50 que ça va se concrétiser. Et on se met à dire qu'effectivement, il faut faire sortir les personnes. Il faut les héberger dans des lieux alternatifs pour un certain nombre d'entre elles. Alors, c'est toutes les personnes âgées qui étaient à l'hôpital psychiatrique qu'on crée pour elles des maisons de retraite ou des maisons de retraite médicalisées. Toute une série de catégories. Alors aujourd'hui, on parlerait de polyhandicap ou de handicap mental pour lesquels on crée des structures spécifiques. Et tout ça fait qu'effectivement, on garde moins les personnes à l'hôpital psychiatrique. Alors celles qui peuvent, effectivement, on va les faire vivre dans des logements, alors parfois avec des aides, etc. Et donc, l'hôpital psychiatrique se vide, surtout on y reste beaucoup moins longtemps. Alors, c'est pas qu'on y va moins, parce qu'en fait, le nombre d'admissions à l'hôpital psychiatrique augmente, mais on y reste beaucoup moins longtemps. Et donc, les personnes affectées par la psychiatrie ont des vies, finalement, beaucoup plus prises entre une diversité d'accompagnement, de services, de professions.
Et on n'est plus du tout comme dans cette vie que vous racontez un petit peu hein, à la fin du XXe siècle, avec le directeur qui habite dans l'asile, certains des pensionnaires qui font des tâches courantes, tout le monde qui reste sur place. Quoi,
oui, alors l'asile, c'était une vraie petite communauté. Hein. C'est un lieu de vie, je veux dire. C'est un lieu de vie, alors non seulement pour des malades, mais aussi pour tout le personnel. Et donc le personnel médical, mais infirmier. Alors aussi un personnel religieux. Pendant une bonne partie de l'histoire, c'était des religieux qui s'occupaient des malades. Et donc tout ce monde-là vit ensemble, alors souvent dans des conditions qui se ressemblent beaucoup, je veux dire le personnel est aussi soumis à une discipline extrêmement stricte, et puis tous ensemble ils doivent assurer un peu la survie, la vie économique de l'institution. Alors les malades sont mis à contribution pour faire du jardinage, pour faire la cuisine, pour s'occuper de la laverie, de façon inverse le personnel doit les soigner mais doit aussi contribuer à l'ensemble de ses tâches. Et effectivement les médecins habitent en théorie sur place, ils ont des relations de familiarité, alors il y a des histoires où les malades sont au service du médecin, à faire le ménage dans son appartement, à s'occuper des enfants, etc.
Ce qui serait plus du tout concevable maintenant.
C'est compliqué aujourd'hui.
Les asiles se remplissent à vitesse grand V au XXe siècle. Il y a au moment de la Deuxième Guerre mondiale, vous le rappelez, des épisodes terribles. 70 000 malades assassinés par l'Allemagne nazie, qui ne veut pas de ses sous-hommes. Également 20 000 morts en Pologne ou en France. Encore 45 000 personnes qui meurent de faim.
Voilà. Oui, alors là, c'est un peu la partie sombre de l'histoire de la psychiatrie au XXe siècle. Alors, les situations sont très différentes d'un pays à l'autre, puisqu'en Allemagne, il y a eu un véritable projet d'exterminer ces personnes, les euthanasier, par gaz, hein, dans des chambres à gaz concrètement, au nom de, au fond, ce sont des dégénérés et la société doit se séparer de ce sang dégénéré. Bon. La situation en France est très différente. Alors, à une époque, la thèse, une thèse qui circulait qui disait que l'état de Vichy avait affamé les hôpitaux psychiatriques. Alors, on a, je crois, largement montré que ce n'est pas vrai aujourd'hui. Mais c'est vrai, par contre, que tout le pays a eu faim hein, pendant les années de guerre. guerre, enfin l'ensemble de la nation, mais ces institutions de relégation ont été particulièrement isolées du reste des circuits d'approvisionnement, etc., et donc ont souffert beaucoup plus que les autres de la faim. Donc, on estime à 40 000 le nombre de malades morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques.
Vous évoquez également la psychiatrie coloniale, qui considère que les populations locales sont trop primitives pour être sensibles aux traitements qu'on donne aux Européens. Et on soigne les malades locaux que lorsqu'ils sont une menace physique, quand ils semblent très violents, par exemple.
Oui, tout à fait. Oui, alors la psychiatrie coloniale, c'est un chapitre en soi de cette histoire. Alors c'est un chapitre qui a été très mal connu pendant très longtemps. Aujourd'hui, on commence à avoir des travaux. Et là aussi, les situations sont très, très différentes d'une colonie à l'autre, d'une métropole à l'autre. Mais ensuite, même à l'intérieur de chaque empire colonial, en France, d'Afrique du Nord et d'Afrique noire, c'était pas du tout la même façon de travailler. Alors à la fois en fonction du statut du territoire, hein, l'Algérie, département français, au contraire de l'Afrique noire, et puis de la relation que les colons, alors déjà de l'implantation des colons, parce qu'il faut quand même dire que la première psychiatrie coloniale est à destination des colons, et de la relation des colons aux populations locales. Alors effectivement, de façon générale, la psychiatrie a beaucoup contribué un peu à la diffusion des idées raciales dans la première moitié du XXe siècle. Donc l'idée que, au fond, les maladies des indigènes, comme on disait, étaient d'une nature différente parce qu'elles étaient d'une autre race, était un des fondements de cette psychiatrie coloniale. Donc elles souffraient de pathologies spécifiques qui ne ressemblaient pas du tout aux nôtres. Et aussi, on ne pouvait pas du tout les traiter de la même façon parce qu'elles n'étaient pas accessibles au traitement comme les blancs pouvaient l'être.
Les métiers qui tournent autour de la psychiatrie ont beaucoup évolué.
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pendant longtemps, la psychiatrie, c'était des médecins, psychiatres et puis des infirmiers. Ce qui se passe au milieu du XXe siècle, alors quand on commence à ouvrir les hôpitaux psychiatriques, on les ouvre dans les deux sens, j'ai envie de dire, en y faisant venir de nouveaux professionnels. On a une vraie multiplication des professions de la santé mentale, hein, qui vont travailler dans ces institutions, assistantes sociales, ergothérapeutes, éducateurs spécialisés, etc., qui vont enrichir les équipes avec un regard professionnel un petit peu décalé, qui va permettre aussi, du coup, de distribuer le travail d'accompagnement dans des équipes, véritablement, où on aura, encore une fois, des regards. Donc ça, c'est une première dimension, une formidable diversification des métiers de la santé mentale. Alors, l'autre dimension, c'est quelque chose qui est de nature plus sociale, qui est le fait que ce qui va se passer au milieu du XXe siècle, c'est avec une formidable... D'abord, une explosion démographique de ces populations. En France, on a environ 1000 psychiatres dans les années 60-70, et on est à partir des années 90 à 10 000 psychiatres, et c'est vrai pour les autres professions aussi. Et donc, des professions beaucoup plus nombreuses, donc ça transforme aussi le sens du métier. Et par ailleurs aussi, une transformation démographique avec des métiers qui se féminisent considérablement. Donc les psychiatres étaient des hommes, et maintenant ce sont des femmes. Depuis le milieu des années 2010, je crois qu'il y a plus de femmes que d'hommes en psychiatrie en France. Et puis toutes les autres professions sont très largement féminisé. Donc ça transforme complètement le rapport que ces personnes ont avec les malades.
Récemment, on s'est aussi plus intéressé au cerveau. Est-ce que là, il y a des connaissances qui ont évolué ?
Oui, alors les sciences du cerveau ont connu depuis 50 ans un formidable essor. On a notamment des financements qui ont permis de développer des outils d'imagerie cérébrale qui ont profondément renouveler nos représentations du cerveau. Alors, la connaissance de beaucoup de phénomènes, de mécanismes simples de fonctionnement du cerveau aussi, ce qui nous donne, je pense, aujourd'hui une très grande connaissance de beaucoup de phénomènes. Mais les sciences du cerveau restent toujours en peine d'expliquer ces maladies psychiques, ces schizophrénies. Donc, il y a la promesse qu'elles vont nous apporter des réponses à ce mystère de la maladie mentale. Une promesse qui, pour l'instant, n'est pas encore réalisée, je crois.
Nicolas Henkès, merci. Je rappelle le titre de votre livre co-signé avec Benoît Magérus, Maladie mentale et société 19e-21e siècle, paru aux éditions La Découverte.